France Inter.
Et voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Quand les pirates s'attaquent à ceux qui sont censés les traquer, le ministère de l'Intérieur a été victime d'une attaque informatique de grande ampleur. Des fiches confidentielles ont été extraites. Ça ne met pas en danger la vie de nos compatriotes, assure le gouvernement. Mais des identités, des adresses sont-elles tombées entre de mauvaises mains? On fera le point au début de ce 13-14. Le gouvernement qui promet par ailleurs d'accélérer sur la vaccination contre la dermatose, mais la mobilisation se poursuit, notamment dans les lycées agricoles. On ira entendre les futurs éleveurs et puis on parlera de ces épizooties qui se multiplient depuis quelques années avec notre invité à 13h30. N'hésitez pas d'ailleurs à intervenir, à témoigner. 01 45 24 7000. Les agriculteurs qui s'opposent aussi à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé le report de la signature prévue cette semaine à Bruxelles. Et il vient de recevoir un soutien de poids. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
C'est celui de l'Italie.
Oui, l'accord est intéressant, dit Giorgia Meloni, mais il doit être amélioré pour mieux protéger les agriculteurs. C'est donc non de l'Italie pour l'instant.
Bruno Duvic, on vous retrouve tout à l'heure en direct de Rome, 5 ans après le fracas du Brexit. C'est une tentative de rapprochement. Le Royaume-Uni s'apprête à rejoindre Erasmus, le programme d'échange universitaire européen. Ce sera effectif dès 2027. Comment expliquer l'explosion survenue dans un immeuble de Trévoux dans l'Ain et qui a causé la mort de 3 personnes? Les rescapés évoquent, écoutez, des problèmes d'entretien, notamment de la chaudière.
C'est terrifiant pour peut-être un manque d'entretien, de savoir qu'il y a eu une explosion comme ça. Je pense qu'il y a d'autres technologies, d'autres choses pour éviter ce genre de choses, quoi.
Et on ira retrouver notre journaliste sur place. On parlera aussi du PSG qui rêve de tout gagner, vraiment tout. Le club parisien veut remporter un dernier trophée ce soir à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale. Et puis un agent secret, une comédie romantique et le retour d'Avatar. Voilà pour les sorties ciné de la semaine qu'on vous présente tout à l'heure. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Des hôpitaux, des mairies, des départements, mais aussi le Sénat ou encore France Travail, on pourrait faire la liste. Et elle est longue, de toutes les administrations, de toutes les institutions publiques qui sont devenues ces dernières années la cible des pirates informatiques. Mais avec l'attaque menée ces derniers jours, on franchit un nouveau palier puisque c'est le ministère de l'Intérieur lui-même qui est touché. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et c'est une cyberattaque de grande ampleur.
Ce qui est sûr, c'est que l'ampleur du piratage est inédite pour le ministère de l'Intérieur. Nous confiait ce matin l'un des commissaires qui, depuis la semaine dernière, est en train justement d'évaluer les dégâts. Et sur ce point, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est resté très prudent. Il était l'invité ce matin de France Info.
Je considère que c'est un acte grave, hein, je le dis, c'est très grave. Et voilà, après, savoir si ça va compromettre des enquêtes ou pas, je ne peux absolument pas vous le dire à ce stade. Je ne pense pas, mais j'en ai aucune certitude.
Sur le dark web, les hackers présumés parlent de millions de données et ils menacent de les divulguer s'ils n'obtiennent pas quelque chose en échange. Alors, ils sont en train de vous faire chanter ?
Ce que je peux vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a pas eu extraction de millions de données. À ma connaissance, c'est faux, mais je reste très prudent sur le niveau des compromissions.
Alors, est-ce que des fichiers encore plus sensibles de la police nationale, Emmanuel, ont pu être atteints par les pirates ?
Si on en reste à quelques fiches d'antécédents judiciaires ou de personnes recherchées pour être revendues, par exemple, sur le dark web, on a eu quelques cas retentissants par le passé de policiers ripoux condamnés pour avoir eux-mêmes revendu ce genre de fiches. Mais au sein du ministère de l'Intérieur, on se demande surtout si le ou les pirates qui se sont infiltrés dans le système informatique ont pu effacer des fiches de recherche de criminels, voire de les modifier en mettant à la place d'autres noms. Enfin, la question est de savoir si le ou les pirates ont eu accès aux fichiers des informateurs et à l'identité des agents qui les traitent et qui sont au cœur des enquêtes criminelles les plus sensibles.
Merci Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Voilà donc un caillou de plus dans la chaussure déjà bien remplie du gouvernement qui tente aussi d'éteindre sans y parvenir. Pour l'instant, la nouvelle contestation du monde agricole, l'autoroute A61 bloquée dans les deux sens à Carcassonne, un trafic ferroviaire interrompu entre Bordeaux et Marseille, entre Toulouse et Narbonne. Voici quelques-unes des perturbations du jour. Les syndicats veulent maintenir la pression concernant le Mercosur, on va y revenir, et puis concernant la dermatose nodulaire contagieuse. La ministre de l'Agriculture a promis que 750 000 bovins allaient être vaccinés dans les semaines à venir. Ça ne suffit pas à rassurer la coordination rurale, la confédération paysanne, les deux syndicats qui mènent ce mouvement, ni les futurs agriculteurs, car dans les lycées agricoles aussi, on se mobilise dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, dans les Pays de la Loire ou encore en région Occitanie, comme vous l'avez constaté, Mathilde Leroy.
Marthe est en terminale au lycée agricole Pierre-Paul Riquet à Castelnaudary, près de Toulouse. Depuis plusieurs jours, elle et ses camarades font brûler des pneus et de la paille sur un rond-point à proximité de leur établissement.
On a beaucoup de soutien, oui, il y a les klaxons. Très souvent, beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui nous remercient. Les commerçants qui nous donnent des choses. Ça fait plaisir un peu de voir qu'ils nous soutiennent et qu'ils sont d'accord avec nous.
Parmi les slogans écrits sur les pancartes, plus jeune, on en rêve, plus vieux, on en crève. Lucas est élève à Pamiers, en Ariège. Fils d'éleveur, il espère pouvoir reprendre l'exploitation, mais s'inquiète.
Tous les jours, il faut se lever pour soigner les animaux. Donc là, en un jour, c'est ruiner une famille. On abat le troupeau, mais on abat aussi l'agriculteur, la famille derrière et une vie, quoi.
Un constat amer partagé par Axel, élève lui aussi dans un lycée agricole. Il proteste contre l'abattage systématique des troupeaux en cas de dermatose nodulaire et n'a pas hésité à manifester.
Le sentiment que j'ai, c'est que si on ne se mobilise pas aujourd'hui, demain ce sera de la viande qui viendra d'autres pays et on n'aura plus d'agriculteurs français. Ça sert à rien que j'ai mon bac si demain j'ai plus d'avenir dans le milieu agricole.
Des jeunes qui partagent leur combat sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où certaines vidéos atteignent 2 millions de vues.
Les précisions de Mathilde Leroy et la particularité de ce mouvement, c'est que le principal syndicat agricole, la FNSEA, n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que les autres depuis le début de la crise. Il appelle à suivre le consensus scientifique, à respecter le protocole mis en place pour éviter toute propagation de la maladie. C'est ce que disait encore ce matin sur France Inter Arnaud Rousseau, c'est le président de la FNSEA.
Les spécialistes nous disent que la science aujourd'hui, pour protéger les troupeaux et pour faire en sorte qu'on ait le moins d'abattage, même si je sais que c'est un drame absolu pour un éleveur qui est obligé d'abattre son troupeau, c'est la meilleure solution parce que si on ne le fait pas, eh bien on risque d'avoir des conséquences bien plus graves. Plus on ira vite pour vacciner les départements qui sont aujourd'hui concernés, mieux ce sera, évidemment. Et ça ne suffira pas d'aller vite, puisque vous savez que derrière, il faut attendre près d'un mois pour qu'on soit sûr que l'innocuité soit au rendez-vous. Et encore faudra-t-il que tout le monde le fasse. Donc, plus ça va vite et plus les gens sont mobilisés. Et d'ailleurs, nous avons appelé, nous, nos réseaux, à nous mobiliser pour vacciner le plus vite possible. Mais en entamant, la maladie continue à être présente et on a besoin absolument de la contrôler. Je rappelle aussi qu'on a impérieusement besoin qu'il n'y ait pas de déplacement d'animaux qui soit contrevenant à la règle pour éviter de transporter la maladie.
Arnaud Rousseau, invité de la grande matinale de France Inter. En revanche, la FNSEA est bien mobilisée sur l'autre grand dossier du moment, la lutte contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Tous les syndicats agricoles appellent à manifester demain à Bruxelles, où se tient un sommet des 27 qui devait initialement, en tout cas, valider cet accord, car cette perspective semble s'éloigner. La France demande le report de la signature, estimant que toutes les garanties n'ont pas été données. Et elle n'est plus seule. Désormais, l'Italie vient de dire la même chose. Bruno Duvic, on vous retrouve à Rome, c'est la première ministre Giorgia Meloni qui l'annonce devant la Chambre des députés.
Avec ses propos, l'Italie regarde avec intérêt cet accord pour son sens politique de pont entre Europe et Amérique latine, pour ses retombées économiques pour l'industrie, mais il doit répondre aux préoccupations des agriculteurs, un des noyaux durs de l'électorat de Giorgia Meloni. La suite dans la voix de la première ministre.
Nous estimons que signer l'accord dans les prochains jours, comme cela a été évoqué, est prématuré. Les mesures de protection du secteur agricole doivent être améliorées et nous voulons en parler avec nos agriculteurs. Cela ne veut pas dire que l'Italie est opposée à l'accord et je veux croire qu'au début de l'année prochaine, les conditions seront réunies pour le signer.
C'est en ligne avec les déclarations de ses ministres qui demandaient ces derniers jours de travailler encore les mesures de réciprocité pour les normes sociales et environnementales. Avec ses réticences italiennes après celles de l'Autriche, de la Pologne, de la France, il sera difficile de rassembler une majorité qualifiée au sein des 27 pays de l'Union européenne pour un feu vert à la signature de l'accord au Brésil ce samedi, comme imaginé dans un premier temps. Comme souvent, la leader italienne n'a dévoilé ses cartes qu'au dernier moment, sans doute parce que sa majorité est divisée sur le sujet et parce que cela risque de provoquer un moment délicat dans ses relations avec la présidente de la Commission européenne, très attachée à l'accord.
Voilà donc la France qui se sent moins seule. Merci Bruno Duvic en direct de Rome. Alors que d'autres pays, l'Allemagne, l'Espagne notamment, insistent sur l'importance d'un accord avec le Mercosur, l'Élysée a donc bien l'intention de se faire entendre. Écoutez Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, c'était tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres.
Nous n'avons pas de visibilité suffisante sur les trois conditions demandées que vous connaissez, les mesures miroir, la clause de sauvegarde et les contrôles. Cela reste vrai aujourd'hui. Et en l'état, le président de la République a tenu à dire et ce sont ces mots que, je cite, « s'il y avait une volonté de passage en force de la part des instances européennes, la France s'opposerait de manière très ferme ».
Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, propos recueillis par Julien Nenny du service politique de France Inter.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Des étudiants français sur les bancs d'Oxford, des étudiants britanniques dans les amphis de la Sorbonne. Voilà qui était devenu chose rare ces dernières années. C'est l'une des très nombreuses conséquences du Brexit. Le Royaume-Uni, en quittant l'Union européenne il y a 5 ans, a aussi rompu avec son programme d'échange universitaire. Mais voilà Londres qui annonce ce matin renouer avec Erasmus. Bonjour Myriam Roch-Massarin.
Bonjour.
Un accord a finalement été trouvé, donc, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Oui, fini les frais universitaires exorbitant pour les étudiants français, allemands ou tchèques qui souhaitent aller étudier à Londres. Ils seront plus de 100 000 jeunes au Royaume-Uni à bénéficier du nouvel accord Erasmus, qui permet donc d'étudier, mais aussi de faire des stages grâce à des bourses qui couvrent les frais des étudiants. C'est l'aboutissement des efforts de rapprochement menés depuis un an par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, qui tente, depuis son élection, de renforcer ses relations avec l'Union européenne. Et ça marche. En plus de l'accord Erasmus, Londres et Bruxelles discutent de la potentielle intégration des Britanniques au marché de l'électricité. C'est dans la foulée du Brexit, en 2020, que Boris Johnson avait décidé de quitter le programme Erasmus. Trop cher, selon le Premier ministre conservateur. Pour 2027, l'Union européenne accorde cette fois 30% de réduction au Royaume-Uni. Le pays dépensera environ 650 millions d'euros pour Erasmus, une contribution moins élevée que celle normalement attendue de la part des États membres.
Et ce sera donc effectif à partir de janvier 2027. Merci beaucoup Myriam Roch-Massarin de la rédaction internationale. Et puisqu'il est question de jeunes qui quittent leur pays pour aller étudier ailleurs, parlons de cette cérémonie qui a eu lieu hier à Grenoble. Alors rien à voir avec le programme Erasmus. L'université iséroise vient d'accueillir 3 étudiantes venues d'Afghanistan après la chute de Kaboul, après le retour des talibans. Une dizaine d'universités françaises ont en effet mis en place un programme d'accueil pour les jeunes femmes qui n'ont plus accès à l'école dans leur pays. Et c'est le cas de ces 3 étudiantes que vous avez rencontrées, Mathilde Cariou.
Ça fait à peine un mois que Najiba, 27 ans, est arrivée à Grenoble. Elle commence tout juste les cours de français.
Bonjour, je viens d'Afghanistan, je suis étudiante de santé dentaire.
Après 2 ans passés en Iran, c'est un soulagement d'enfin s'installer en France.
Ici, on a le droit d'exister, de vivre et on est quelqu'un. Ce sentiment, je ne peux pas le décrire. Je suis très heureuse.
Avec son amie Tahira, elles ont fui l'Afghanistan quelques mois après le retour des talibans. Impossible, disent-elles, de rester vivre à Kaboul.
Là-bas, on n'a aucun droit. On ne peut pas sortir, on ne peut pas faire des études, on ne peut pas travailler. Le quotidien, c'est de se demander comment partir, comment quitter le pays. Toute la journée, on ne pense qu'à fuir.
Après plusieurs demandes dans différents pays, elles sont passées par l'association Enfants d'Afghanistan. Et d'ailleurs, Reza Jafari, le président, les a aidés à rejoindre un programme d'accueil universitaire.
Les critères, c'est d'avoir plus de 18 ans, au moins un bac, des attestations de langue, parce qu'il y a des études en anglais.
Pour le moment, Najiba, Tahira et Somaya sont hébergés par la ville, mais la mairie cherche 3 familles volontaires pour les accueillir au plus vite.
Reportage signé Mathilde Cariou, ici Isère. Et si ça vous intéresse d'accueillir ces étudiantes, vous pouvez contacter la mairie de Grenoble. Plusieurs autres jeunes afghanes sont d'ailleurs attendus à l'université à partir du mois de janvier. La consommation de charbon a encore progressé cette année dans le monde et un nouveau record devrait être battu en 2025 avec presque 9 milliards de tonnes, notamment grâce à la politique incitative de l'administration Trump et malgré les alertes des scientifiques, puisque le charbon est le principal contributeur aux émissions de CO2 d'origine humaine. L'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation du charbon devrait commencer à baisser à partir de 2030, notamment grâce à l'essor des énergies renouvelables. En attendant, le pétrole reste lui aussi en bonne place dans la consommation énergétique. Et il est désormais au cœur du bras de fer entre le Venezuela et les États-Unis. Donald Trump qui fait pression de plus en plus ouvertement sur son homologue Nicolas Maduro vient en effet d'annoncer un blocus total contre les pétroliers sous sanctions qui se rendent ou qui partent du Venezuela au Marouaman.
Caracas a dénoncé une menace grotesque et accuse Washington de vouloir provoquer un changement de régime.
régime au Venezuela pour s'emparer de son pétrole, les plus grandes réserves au monde. Tout en maintenant le flou sur la possibilité d'une intervention terrestre, Donald Trump a rappelé que le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud et d'ajouter que ce dispositif ne fera que s'accroître jusqu'à ce qu'il rende aux États-Unis le pétrole, les terres et les autres actifs qu'ils ont, je cite, précédemment volés. Le président américain n'a pas développé ces accusations, mais il fait référence à la nationalisation par le passé de l'industrie pétrolière du Venezuela, ce qui avait conduit des compagnies américaines comme ExxonMobil à quitter le pays et à réclamer des indemnités. Depuis 2019, ce pétrole vénézuélien est sous embargo, mais cela ne l'empêche pas d'être écoulé sur le marché noir, notamment vers la Chine.
Les précisions d'Omar Waman. Un bilan qui s'est alourdi et des questions qui restent nombreuses. Attrez-vous dans l'Ain après l'explosion survenue lundi dans un immeuble de 4 étages. Le corps d'une femme a été retrouvé. 2 enfants de 3 et 5 ans ont également été tués. Le maire de la commune a évoqué la piste d'une explosion due au gaz. Le parquet, lui, souligne qu'à ce stade, les causes ne sont pas encore déterminées avec certitude. Mais les habitants de l'immeuble, les rescapés qui sont logés au camping de la ville, eux s'interrogent sur l'entretien des appartements du bailleur social Mathieu.
Sur sa petite terrasse, Christina est au téléphone avec son frère, en pantoufles, dans un petit manteau. C'est tout ce qu'elle a pu prendre dans ce bungalow.
De l'autre côté, on a encore 2 chambres pour les enfants. Et là, on lit superposé. C'est difficile que j'arrive à dormir parce que j'ai peur que ça s'effondre.
Le jour de l'explosion, elle se souvient d'une forte odeur de gaz. Elle était dans le salon de son appartement au rez-de-chaussée.
Depuis le matin, je ne me sentais pas bien, nausée, très fatiguée. Je n'ai pas entendu l'explosion. J'ai dû m'évanouir quand je me suis réveillée. J'étais comme shootée. La porte de l'entrée blindée rouge, elle était à mes pieds. Elle a fait un vol de 10 mètres.
Pour elle et son mari, Ludovic, ils sont persuadés que l'explosion vient d'une chaudière. Ils racontent l'attente parfois longue pour avoir des techniciens sur place chargés de l'entretien.
Ça faisait un bruit, c'était des bruits bizarres. J'avais peur de ce bruit, alors moi je la coupais.
Cette question de l'origine de l'explosion, il y pense tout le temps.
C'est terrifiant, pour peut-être un manque d'entretien, de savoir qu'il y a eu une explosion comme ça. Je pense qu'il y a d'autres technologies, d'autres choses pour éviter ce genre de choses, quoi.
Ils attendent maintenant des réponses de l'enquête et du bailleur social que nous avons contacté et qui ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.
Le reportage de Mathieu Bonnour. La mobilisation se poursuit au musée du Louvre à Paris. En assemblée générale ce matin, les salariés ont voté à l'unanimité le maintien de la grève. Les agents dénoncent notamment des problèmes de sous-effectifs, la vétusté des bâtiments. Les propositions du ministère de la Culture ont été jugées insuffisantes. Les visiteurs ont donc trouvé porte close ce matin, mais le musée a finalement rouvert partiellement dans la matinée. Et si Rachida Dati doit faire face ainsi à la colère des salariés du Louvre, elle mène aussi la bataille pour la mairie de Paris. Et pour lui faire face, la gauche parisienne a décidé de s'unir. Les socialistes, les écologistes et les communistes se rangent derrière une seule et même candidature, celle d'Emmanuel Grégoire, l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo. Car la bataille s'annonce rude. Sonia Gobry, vous en avez eu une illustration au Conseil de Paris qui se tient en ce moment avec une Rachida Dati à l'offensive.
Oui, elle veut s'affirmer comme la seule alternative à la gauche. Alors évidemment, Rachida Dati ne rate pas une occasion d'étrier le bilan d'Anne Hidalgo en prenant soin d'y associer Emmanuel Grégoire, son principal rival dans cette bataille des municipales.
Madame la maire et votre premier adjoint d'alors, monsieur Grégoire, vous aviez pris un engagement de ne jamais augmenter les impôts, encore une promesse non tenue.
Toujours prête à provoquer le clash, stratégie assumée, Rachida Dati embraye sur l'affaire des notes de frais d'Anne Hidalgo qui réplique.
Vous devrez rendre compte.
Vous madame vous rendrez la maire, compte au tribunal votre... le 16 septembre 2026 pour corruption.
L'ajout verbal se poursuit.
Peut-être que vous nous ferez aussi le déguisement du petit gardien de prison. Peut-être qu'on vous verra pas simplement en éboueur derrière un camion poubelle.
Allusion à cette vidéo virale. On y voit Rachida Dati, veste jaune fluo sur le dos, en train de vider des poubelles. Elle incarne Paris, elle se marre, elle fait de loin la meilleure campagne numérique, se félicite l'un de ses soutiens. Ça génère en effet du clic, plus de 10 millions de vues, mais ça lui vaut aussi des procès en démagogie. démagogie qu'importe pour Rachida Dati. Elle sature l'espace médiatique pour contrer ses adversaires de gauche et au passage invisibiliser le candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel, qui lui prendra des voix au centre et à droite.
Sonia Gomery, service politique de France Inter. La justice se penche cet après-midi sur une affaire inédite en France. À la croisée du sport, du droit et des questions de société, une athlète transgenre de 24 ans, Alba Diouf, a saisi le tribunal pour discrimination et harcèlement moral. La sprinteuse accuse la Fédération française d'athlétisme de l'avoir empêchée de concourir en catégorie féminine, celle qui correspond à son identité de genre depuis sa transition. Bonjour Sarah Mansourin.
Bonjour.
Le tribunal correctionnel de Paris examine donc la légalité de cette décision de la Fédération au regard du droit français.
Oui, Alba Diouf est reconnue femme par la justice depuis 3 ans. Alors l'étudiante en droit, qui se destine à être avocate, estime que cette décision représente une discrimination en raison de son identité de genre. Depuis 2023, malgré des chronos de haut niveau, 22,93 sur 200 mètres par exemple, son nom est effacé des classements, ce qui la cantonne au niveau départemental.
Je fais partie des meilleures athlètes françaises sur le 60 mètres ainsi que le 200 mètres. Même à l'époque, je faisais des chronos exceptionnels. Néanmoins, cela n'était pas reconnu par la Fédération française.
La Fédération d'ailleurs ne souhaite pas nous répondre avant l'audience, mais sa position est connue. Alba Diouf bénéficierait d'un avantage par rapport aux femmes cisgenres, c'est-à-dire considérées femmes dès la naissance. La FFA se base en fait sur un règlement de World Athletics, la Fédération internationale, qui interdit aux femmes trans ayant connu une puberté masculine l'accès aux compétitions féminines.
C'est très important de préciser que la Fédération française d'athlétisme m'a interdit la participation à des compétitions avant les restrictions de World Athletics.
Et cette question d'un supposé avantage indigne Alba Diouf.
Aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve qu'une femme transgenre sont avantagées par rapport à leur testostérone ou même par rapport à leur puberté. Néanmoins, il existe des centaines d'études scientifiques qui prouvent que les femmes transgenres ne sont pas avantagées. Et cela a été même validé par le CIO qui a sorti une étude scientifique qui prouve que les femmes transgenres sont même désavantagées.
Et la jeune femme espère donc qu'une décision favorable de la justice lui ouvrira la route vers les championnats de France. Et in fine, elle rêve des JO 2028 à Los Angeles.
Merci Sarah Mansoura. On passe maintenant aux sorties ciné de la semaine.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Nom de Dieu.
Et comme chaque mercredi, c'est avec vous. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Céline.
La sortie incontournable cette semaine, c'est le 3e volet de la saga Avatar.
Oui, ce blockbuster bulldozer signé James Cameron devrait attirer les foules en cette fin d'année, malgré une nouvelle fois sa durée XXL, 3h17.
Non, non, non.
De feu et de cendres, c'est le sous-titre de cet Avatar 3 qui impressionne une nouvelle fois par la richesse de son univers visuel. Les scènes de bataille nombreuses sont elles aussi à couper le souffle. Le scénario en revanche est moins convaincant. J'ai d'ailleurs du mal à le résumer autrement qu'en vous disant que les gentils sont attaqués par les méchants et que les gentils vont donc devoir se défendre et tenter de repousser les méchants. Bref, Cameron semble de plus en plus privilégier la forme au détriment du fond.
Voilà donc pour ce 3e épisode de la saga Avatar. Votre coup de cœur de la semaine, Alexis, c'est le thriller brésilien L'Agent Secret.
Oui, ce fut l'un des grands chocs de la sélection cannoise au printemps dernier. Avec ce 6e long métrage, le cinéaste Kleber Mendonça Filho est définitivement entré dans la cour des grands. Le jury du Festival de Cannes a même récompensé 2 fois L'Agent Secret avec le prix de la mise en scène et celui du meilleur acteur pour le génial Wagner Moura.
Ça fait quels programmes américains de protection à témoins.
Nous sommes en 1977, en pleine dictature militaire au Brésil. Marcelo arrive dans la ville de Recife au moment du carnaval, dans l'espoir d'y retrouver enfin son jeune fils. Mais Marcelo est poursuivi par de mystérieux hommes armés et il doit passer son temps à se cacher, à changer d'identité, à vivre loin de ses proches. Ce polar politique formidablement mis en image avec ses teintes pastel et ses plans qui transpirent le cinéma est une réussite totale.
Alors vous avez été moins convaincu en revanche par la comédie romantique L'âme idéale.
Je comprends pas ce qui m'arrive.
Ma mère voyait les morts elle aussi. J'imagine qu'elle m'a transmis le truc.
J'ai pas envie de te quitter.
Les voix de Magali Lépine-Blondeau et de Jonathan Cohen dans ce mélo réalisé par Alice Vial. Elsa est une infirmière célibataire qui a le pouvoir de parler aux morts. Un soir, elle a le coup de foudre pour Oscar, mais c'est en fait de son fantôme dont elle est amoureuse. Cet enjeu narratif n'est pas vraiment nouveau et la mise en scène est elle aussi assez convenue. Mais le décidément très bon Jonathan Cohen sauve la mise grâce à son interprétation d'un quadra maladroit terriblement touchant.
Allez, en quelques mots, quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
La fabrique des des monstres, un film d'animation situé dans l'univers de Frankenstein. Rebuilding, un néo-western avec le BG Josh O'Connor dans le rôle d'un propriétaire de ranch qui perd tout dans un incendie. Et Le Chant des Forêts, le nouveau docu-nature de Vincent Munier, le réalisateur de La Panthère des Neiges.
Merci Alexis Demeyer. Et puisque l'on parle de cinéma, le studio Warner Bros. Vient à l'instant de rejeter l'offre de rachat de son concurrent Paramount, offre déposée pour tenter de contrer la plateforme Netflix qui a bien l'intention de racheter le mythique studio et son impressionnant catalogue. Et puis Paris va-t-il ajouter encore un trophée à sa besace déjà bien remplie? Le PSG, déjà vainqueur de la Ligue 1, la Ligue des Champions cette saison, dispute ce soir la finale de la Coupe Intercontinentale. Ce sera contre le club brésilien du Flamengo. Et une victoire ce soir permettrait aux Parisiens de terminer sur un carton plein, Julien Froment.
Remporter 6 trophées sur une saison, exploit réalisé seulement par 2 équipes en Europe, le FC Barcelone et le Bayern Munich, c'est l'ultime objectif que s'est fixé le PSG en 2025. Malgré la fatigue, l'entraîneur parisien Luis Enrique a coché cette date dans le calendrier.
Je pense que c'est une motivation très claire. Marquer l'histoire à Paris, ça a été un objectif la saison dernière et continuer à marquer l'histoire. C'est l'objectif de cette saison.
Car jouer et gagner une finale de Coupe Intercontinentale, c'est un moment rare dans une carrière. Au Paris Saint-Germain, un seul joueur a eu ce privilège, le défenseur Lucas Hernandez avec le Bayern Munich en 2020. Paris qui pourra compter sur un effectif quasiment au complet. Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé et le capitaine Marquinhos sont présents pour affronter les Brésiliens de Flamengo. Seule absence notable, mais connue de longue date, celle du défenseur marocain Achraf Hakimi.
PSG-Flamengo, le match sera joué tout à l'heure au Qatar et ce sera à partir de 18h. Pour l'heure, il est 13h26. Restez avec nous sur France Inter. Dans les prochaines minutes, on va retrouver les prévisions météo de Céline Dacosta qui va nous annoncer encore beaucoup de nuages. On va ensuite se pencher sur la multiplication des épizooties en France. Pourquoi des maladies touchent de plus en plus souvent les élevages? Peut-on miser sur la vaccination pour y faire face? La chef du département santé animale à l'INRA est notre invitée et j'attends vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Notre feuilleton dans les Pyrénées orientales cette semaine sur les traces de ces Espagnols qui ont fui la dictature de Franco juste avant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux ont transité dans le camp d'Argelès-sur-Mer dans des conditions de vie difficiles. Un mémorial est consacré à leur histoire et on verra ça tout à l'heure dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Céline.
Du 1 et Hebdo. Et comme Noël approche à grands pas, vous avez choisi, Éric, d'évoquer la famille dans tous ces états. On se demande comment éviter les sujets qui fâchent autour de la dinde.
C'est ça Céline, car si Noël reste une fête de famille, famille élargie, recomposée ou parfois décomposée, il faut surtout savoir composer avec les uns et les autres pour passer un bon moment, un moment paisible et joyeux. J'essaierai de vous mettre sur la bonne voie.
Merci pour ces bons conseils. Et puis c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui?
Eh bien c'est un aventurier à vélo. Il s'appelle Axel Carion. Depuis 15 ans, il enchaîne les exploits à travers le monde et avec lui, nous écouterons une chanson des Doors, chanson qui l'accompagne lors de ses ascensions.
Merci à tous les deux. Je vous dis à tout de suite.
Avatar, de feu et de cendres.
Le feu est la chose la plus pure qui existe en ce monde.
Retournez sur Pandora.
Il est grand temps.
Et vivez l'expérience cinéma ultime.
On doit se battre!
Brûlez tous.
Avatar, de feu et de cendres. Le nouveau chef-d'œuvre de James Cameron.
Mais celui-là n'abandonne jamais.
Actuellement au cinéma.
Le premier est maçon. Le deuxième est chauffeur. Le troisième est écrivain. Trois hommes ordinaires. Trois bourreaux en puissance. Et trois femmes qui courent pour échapper à leur violence. Dans La nuit au cœur, Natasha Appana raconte ses vies qui basculent quand la nuit noire prend la place de l'amour.
Récompensée par le prix Femina et le Goncourt des lycéens, La nuit au cœur est le livre événement de cette fin d'année. La nuit au cœur de Natasha Appana, un livre puissant et sensible aux éditions Gallimard.
France Télévisions. Demain soir, Prodige revient pour les fêtes avec Faustine Bollaert.
On ouvre en grand les portes de la 12e saison de Prodige.
Un spectacle grandiose.
Vous allez faire connaissance avec 24 jeunes virtuoses.
Inédit. Prodige, la première demi-finale, demain soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2.
13h28, la météo.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Un ciel encore bien nuageux pour cet après-midi.
Oui, une ambiance globalement calme, mais c'est vrai, beaucoup de nuages.
Et il nous reste quand même du soleil. Un soleil qui s'impose sur le sud de l'Aquitaine, mais aussi sur les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, la région Rhône-Alpes, en remontant vers le sud de l'Alsace. Ailleurs, les éclaircies restent timides et parfois très brèves, sous une couverture nuageuse, on le disait, qui est encore dense. On peut quand même espérer quelques percées lumineuses un petit peu plus présentes entre les pays de la Loire et les côtes de la Manche. Et puis, on a encore quelques brouillards persistants dans certaines vallées qui peuvent maintenir ce ciel toujours bien gris, en Champagne, en Alsace, mais aussi dans le Lyonnais ou en Provence. Et on a une nouvelle perturbation, pour couronner le tout, j'ai envie de dire, qui nous aborde par l'ouest, avec déjà quelques averses sur la Bretagne, accompagnées d'un vent qui se renforce. On parle de rafales à 70 km à l'heure cet après-midi.
Mais qu'est-ce que ça donne du côté des températures?
C'est toujours très doux, 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison, une moyenne qui varie de 7 à 15 degrés du nord au sud. Les valeurs les plus fraîches sont pour le nord-est. Et puis ça grimpe près de la Méditerranée avec le retour du soleil, puisque la moyenne ira au meilleur de la journée de 14 à 18 degrés de Nîmes à Ajaccio.
Merci Céline Dacosta.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
C'est un nom que beaucoup d'entre nous n'avaient jamais entendu il y a encore quelques semaines et qui s'est pourtant imposé dans l'actualité. La dermatose nodulaire contagieuse est au cœur d'une crise agricole. Elle vient s'ajouter à d'autres épizooties, la grippe aviaire, la fièvre aphteuse ou encore la fièvre catarrhale bovine. Alors les virus qui menacent les élevages sont-ils de plus en plus nombreux et comment s'en prémunir? Ce sont les questions que l'on va poser tout de suite à notre invitée. Bonjour Pauline Ezzano.
Bonjour Céline Asselot.
Vous êtes directrice de recherche en épidémiologie animale. Vous dirigez le département santé animale à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Est-ce qu'on peut dire tout d'abord qu'il y a une augmentation du nombre, ou bien de la fréquence, ou bien des deux, des épidémies qui touchent les animaux en France?
Bah oui, tout à fait. On peut juste regarder factuellement. Il y a, je dirais, 10 à 20 ans, on avait plutôt une ou deux crises d'épidémie animale par an. Et aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt à 3-4 par an, toutes filières confondues.
Est-ce que c'est à chaque fois des nouveaux virus ou est-ce que c'est des virus qui se transforment, qui disparaissent, qui réapparaissent?
Alors, ça dépend. On peut avoir des réémergences. Donc, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la grippe aviaire. Bon, bah, ça recircule assez régulièrement. Des fois, il y a des creux où ça circule moins et puis ça revient. Et souvent, le virus a évolué. C'est pas exactement le même virus. Il y a d'autres cas où c'est plutôt des nouvelles maladies qu'on n'attendait pas spécialement. Mmh. Donc, voilà, vous avez mentionné la dermatose nodulaire contagieuse bovine. On s'y attendait pas forcément. L'année dernière, on n'aurait pas parié sur cette maladie-là. Il y en avait d'autres qui étaient aux portes de la France, qui sont restées aux portes, mais heureusement, ne sont pas arrivées en même temps. Mais voilà, c'est pas toujours facile de prévoir où, quand et qu'est-ce qui va émerger.
D'où les difficultés que vous rencontrez, vous allez nous en parler. Comment ça s'explique finalement la multiplication de ces épidémies?
Bah, déjà, on constate que le climat évolue pas forcément en faveur des maladies, mais pas forcément en faveur des animaux qui, eux, vont être plus exposés. Par exemple, l'aire de répartition des vecteurs, donc des insectes qui piquent et qui peuvent transmettre des agents pathogènes, elle augmente. On a des espèces qui remontent vers le nord. On a aussi des hivers plus doux, donc la période où ils sont actifs est plus longue.
Donc et il fait plus chaud, il y a plus d'insectes, ils sont plus actifs, c'est ça? Ils piquent plus.
Exactement. Donc forcément, ça va mieux se transmettre et potentiellement avec des nouveaux agents pathogènes, des nouveaux virus. Et puis, on a d'autres facteurs qui sont très importants aussi, avec tous les mouvements qui existent alors depuis un certain temps, mais qui s'intensifient, bien sûr, d'animaux vivants, mais pas seulement, aussi les mouvements de personnes, de biens et de produits. Voilà, on voyage beaucoup, on transporte avec nous des produits d'origine animale, par exemple un sandwich ou des choses comme ça. Et on peut aussi embarquer avec nous ces insectes dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent voyager en même temps que nous. Et tout ça intensifie l'exposition et le fait qu'on va avoir de plus en plus de risques de voir émerger des nouvelles maladies.
Est-ce que vous avez un exemple justement d'une épizootie qui n'aurait certainement pas eu lieu sans les facteurs que vous venez de décrire?
Oui, alors on peut, par exemple, je vais prendre un exemple en santé humaine. On a des cas maintenant sur le territoire français, de métropole, des cas de dengue et de Zika, par exemple, qui n'existaient pas avant et qui sont possibles parce que le moustique, l'espèce de moustique qui est compétente et qui peut transmettre ces virus-là est présente, donc le moustique tigre, pour ne pas le nommer, est présente maintenant sur une grosse partie de notre territoire et remonte tranquillement vers le nord de l'Europe.
Est-ce que le changement climatique, il fait apparaître sur des territoires, vous le disiez, des virus qu'on n'aurait pas imaginé trouver là, ou est-ce qu'il intensifie aussi, ou est-ce qu'il rend plus rapide sa transmission? Est-ce que ça, c'est possible?
Oui, tout à fait, c'est possible, parce qu'en fait, le fait que l'interaction entre le virus et ses hôtes, que ce soit des hôtes vertébrés, des animaux, ou des hôtes des insectes, peut être modulée par par exemple, par la température. Pas uniquement, mais par exemple.
On va aller au stand Standard de France Inter pour accueillir Gérard. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Je vous laisse poser votre question à Pauline Ezzano.
Oui, oui, j'ai évoqué le fait que les pathologies virales dont la prolifération exaspère un certain nombre de personnes. En fait, votre avis est intéressant, bien entendu, madame. Je pense que c'est en relation avec une diminution des capacités du système immunitaire. Mmh. Pour ma part, j'ai vécu à La Réunion, j'ai subi le chikungunya, la dengue, et ainsi de suite. Et les virus, en particulier ceux de type influenza, sont communs à la fois aux hommes et aux animaux, n'est-ce pas? Et je vais prendre un exemple très simple.
Rapidement, si vous voulez bien.
Oui, ce sera rapide. La plupart des animaux, comme des humains d'ailleurs, sont victimes de carences, en particulier un élément trace métallique, c'est-à-dire des éléments qui sont toxiques, mais dont la concentration est faible, très faible. Lorsque la concentration est très faible, c'est indispensable pour le fonctionnement de l'ensemble des systèmes enzymatiques. N'est-ce pas ? Et leur carence, et d'autre part le fait que l'alimentation soit très artificielle dans le système productiviste, oui, fait que les animaux ont beaucoup de mal pour avoir un système immunitaire à peu près en état. Voilà.
Merci beaucoup pour à la fois votre témoignage et votre question, Gérard. Est-ce qu'il y a effectivement un problème de protection des animaux face à ces virus qui sont de plus en plus présents, Pauline Ezzano ?
Alors, il va y avoir deux choses que je pourrais dire. C'est tout d'abord, ça, bien sûr, selon les races d'animaux, leur sensibilité aux maladies n'est pas forcément la même. Des fois, ils vont être plus sensibles, des fois, ils vont être moins sensibles. C'est aussi lié à leurs habitudes d'exposition. Donc, quand ce sont des nouvelles maladies qu'ils n'ont jamais rencontrées, souvent, les animaux sont plus sensibles. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre l'alimentation, la nutrition animale, et puis leur capacité à être plus résistant ou plus résilient aux maladies. Et d'ailleurs, il y a des travaux de recherche qui sont conduits par les instituts pour trouver, caractériser ces effets et trouver justement ça comme des moyens de renforcer la résilience des animaux en ayant une alimentation la plus adaptée possible et en diversifiant les sources d'aliments qui sont fournis aux animaux.
Est-ce que la taille des exploitations agricoles est aussi un facteur ? Est-ce que la spécialisation des régions, le fait par exemple qu'il y ait beaucoup d'élevage de canards dans le sud-ouest, avec beaucoup d'élevage, des centaines de milliers de canards dans une zone très restreinte. Est-ce que ça joue aussi dans la transmission des épizooties, des virus et donc des épizooties ?
Alors oui, ça c'est évident que ça va jouer dans le sens où plus on est... plus il y a d'animaux proches, plus il pourra y avoir de contacts. Et donc, une fois que le virus est arrivé à un endroit, il va se transmettre plus facilement entre les animaux puisqu'ils sont denses, puisque c'est une population dense. Après, ça permet aussi de les rassembler à un même endroit, d'avoir une meilleure surveillance du troupeau, puisque du coup, ils ne sont pas éparpillés un peu partout. Et on peut du coup aussi préserver, avoir des mesures de biosécurité qui soient plus importantes. C'est plus facile à mettre en œuvre si on circonscrit l'espace d'élevage des animaux. Donc, si vous voulez, c'est pas
mauvais côté.
Voilà, exactement.
Je vous soumets d'ailleurs cette question de Monique, un petit peu sur le même thème. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer notre modèle de production animale, polyculture, arrêter les hangars, nous dit notre auditrice ?
Alors, je vais avoir un peu une réponse du même genre que tout à l'heure. Oui et non, c'est-à-dire que on a en France la chance d'avoir une très grande diversité de systèmes d'élevage. C'est une chance parce que c'est ce qui fait qu'on va avoir une très grande diversité de produits avec une très forte qualité des produits qui sont produits en France et qui permettent aussi d'être plus flexibles et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je dirais. Donc, et ça permet aussi de voir qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien. Donc, ça donne des bons exemples. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait l'objet de recherches pour essayer de bien comprendre les problèmes qui peuvent être associés à ces types de systèmes, à ces diversités de systèmes d'élevage et les avantages de chacun, sachant que l'idée, c'est de transiter vers des élevages les plus durables possibles en ayant en tête d'augmenter le bien-être animal ou de favoriser le bien-être animal, de limiter l'impact de l'élevage sur l'environnement, d'augmenter également l'attractivité du métier d'éleveur, qui est un métier très difficile et qui peut souffrir de problèmes d'attractivité et on a besoin des éleveurs pour maintenir ces élevages sur le long cours. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en faisant ça, en allant vers des élevages qui rassemblent tous ces facteurs que je viens de mentionner, on a en contrepartie potentiellement une exposition qui va être accrue au risque sanitaire, surtout si les animaux sortent plus. Donc voilà, ce n'est pas si facile que ça de dire qu'il faut que les animaux doivent être dehors et éviter les hangars et le confinement. Parfois, c'est ce qui permet d'avoir des bonnes mesures de biosécurité et d'éviter l'exposition à la faune sauvage, aux insectes, etc. Donc, il faut quand même potentiellement avoir un mixte des deux pour pouvoir réagir selon le type de risque qui se produit. Et bien sûr, ça milite en faveur d'un fort besoin de surveillance et de mesures de prévention.
Alors, venons-en justement aux moyens de prévention, puisque vous êtes, je rappelle, Pauline Ezzano, la chef du service santé animale à l'INRAE. Vous travaillez donc sur le constat, mais aussi sur les solutions. On parle beaucoup de la vaccination réclamée par les éleveurs pour éviter l'abattage des troupeaux dans le cas de la dermatose nodulaire contagieuse. Mais il y en a bien d'autres, on imagine qu'il y a tout un éventail.
Tout à fait, c'est même un des objectifs scientifiques de notre département santé animale, mais c'est aussi un axe de recherche dans le programme national multipartenaire élevage durable. Et c'est vraiment des recherches qui sont très importantes, à la fois pour apporter des nouvelles connaissances qui permettront d'aboutir à des nouveaux vaccins, et si possible en ciblant bien sûr les vaccins les plus utiles pour les filières, donc en se focalisant sur les problématiques les plus importantes à l'échelle nationale et européenne. Donc on peut penser grippe aviaire, fièvre catarrhale ovine, il y a beaucoup d'exemples de maladies qui ont besoin d'avoir des vaccins efficaces pour pouvoir aider à maîtriser ces maladies. Et puis, il y a également, c'est pas un tout de produire des connaissances pour produire des nouveaux vaccins, mais il y a aussi la difficulté de savoir comment ensuite mettre en œuvre les stratégies de vaccination. C'est pas si simple que ça de savoir comment mettre en œuvre ces stratégies. On pourrait bénéficier d'avoir des nouveaux outils pour aider, qui soient co-construits avec les gestionnaires du risque, pour justement bien raisonner la mise en œuvre de ces stratégies, sachant qu'on est en ressources contraintes. Donc on a forcément un nombre de doses limite, on a forcément aussi un nombre d'êtres humains mobilisables sur le terrain pour aller faire la vaccination qui est contrainte, et on a aussi des enjeux économiques à prendre en compte, c'est pas que des enjeux de santé animale. Donc c'est vraiment une problématique un peu large.
Mais est-ce que j'en reviens à ce que vous disiez au tout début de cette interview, les virus, ils arrivent de plus en plus fréquemment, parfois ce sont des virus qu'on attend pas, qui se retrouvent à se répandre sur le territoire. Il faut trouver une solution vite, un vaccin, il faut le trouver, le produire, l'acheminer, l'administrer. Tout ça, ça prend du temps. On passe son temps à courir finalement après les maladies.
Alors, c'est vrai, tout ça prend du temps, et c'est pour ça qu'on ne mobilise généralement pas une seule mesure de maîtrise. Donc, par exemple, pour les maladies qui sont réglementées, et notamment, je vais reprendre l'exemple de la DNC, qui est de catégorie A, qui a été classée comme cela par les différents États membres de l'Europe, qui se sont mis d'accord sur ces listes. Là, l'idée, c'est, quand ça vient d'arriver, c'est vraiment d'essayer d'éradiquer au plus vite, et la vaccination va être un des leviers majeurs, mais pas le seul. Le dépeuplement, donc l'abattage des foyers, est une autre mesure qui permet d'attendre que le vaccin soit disponible, par exemple. Et bien sûr, il ne faut pas oublier aussi des mesures que les éleveurs ont l'habitude de mettre en œuvre, les mesures de biosécurité, donc rentrer les animaux, par exemple, éviter les contacts, restreindre les mouvements d'animaux vivants. Tout ça, c'est tout ça ensemble qui va permettre d'être assez rapide et de pouvoir revenir à un état indemne, combiné avec, bien sûr, une surveillance active et une détection la plus précoce possible des cas.
L'abattage, c'est évidemment une mesure qui divise le monde agricole, et c'est l'une des raisons de la mobilisation à laquelle on assiste depuis quelques jours. Qu'en pensez-vous, vous, Pauline Ezzano? Est-ce qu'on doit en passer par là, parfois, lorsque les autres mesures ont été épuisées ou ne sont pas encore disponibles?
Lorsque les autres mesures ne sont pas encore disponibles, si on ne veut pas que l'agent pathogène se propage à toute la filière et ne devienne plus du tout contrôlable, malheureusement, oui, on doit en passer par là. Alors, je sais bien que c'est vraiment très difficile pour les personnes dont c'est le métier, dont c'est les animaux. Les éleveurs sont là pour soigner, pour élever leurs animaux. Les vétérinaires sont là pour soigner les animaux. Pour eux, c'est pour tous les acteurs de la filière, des filières animales, pardon, c'est vraiment une mesure très, très brutale. Mais néanmoins incontournable, surtout si on n'a pas d'autres mesures encore disponibles.
J'en reviens à la question de la vaccination avec cette question de Michel sur l'appli Radio France. Qui sont les laboratoires qui vont fournir le vaccin? Est-ce que ce sont des laboratoires français ou étrangers, Pauline Ezzano?
Alors, ça dépend des maladies. Après, la plupart des... Donc, souvent, on parle quand même de millions de doses. Donc, la plupart du temps, c'est des très gros laboratoires pharmaceutiques qui sont généralement internationaux, en fait, qui ont des sites dans différents pays. Et donc, là, ce qui est peut-être important à savoir, et je ne sais pas si tout le monde est au courant, c'est que en fait, en Europe, il y a une banque d'urgence qui peut être mobilisée quand il y a une émergence d'une nouvelle maladie. Et ça permet d'aller vite. Donc, c'est... Voilà, les États... des états cotis, quoi. Et puis ensuite, ils peuvent avoir accès rapidement à des vaccins. Et ensuite, bien sûr, il va falloir prendre le relais avec d'autres origines de vaccins.
De manière plus globale, j'allais dire, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a l'organisation qu'il faut pour faire face à l'émergence de plus en plus rapide de ces virus qui touchent l'élevage ?
Alors, moi, je dirais que oui. On a donc déjà, on a la loi européenne sur la santé animale qui a quand même vraiment fait en sorte que tous les États membres agissent de concert. Et c'est très important parce que on voit bien que ces maladies n'ont pas de frontières et donc il faut quand même pouvoir se coordonner entre pays. Et de plus, en France, on a la chance d'avoir un outil vraiment très intéressant pour la surveillance de la santé animale, qui est la plateforme d'épidémiosurveillance animale, qui est assez unique en Europe dans le sens où elle est copilotée par 11 partenaires nationaux. Donc, à la fois des partenaires, on va dire, régaliens, les ministères, également des partenaires scientifiques, bien sûr INRAE, mais aussi le CIRAD, l'ANSES, et aussi des partenaires de terrain, c'est-à-dire que sont aussi représentées les personnes qui sont sur le terrain, que ce soit les éleveurs, les vétérinaires, des représentants pour la faune sauvage, pour la chasse, voilà, il y a vraiment, tout est représenté. Et ça permet du coup de travailler ensemble dans une approche de consensus et donc d'aller de co-construire ce qui va être produit. Et je vais donner peut-être deux exemples
pour terminer, si vous voulez bien.
Oui. Moi, je vais en donner qu'un. Par exemple, il y a un gros travail sur la veille sanitaire internationale qui permet de surveiller ce qui pourrait arriver sur le territoire. Et donc, c'est ce qui a permis, là, pour la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, de détecter vraiment très rapidement, parce que c'était très suivi. Ils avaient vu qu'il y avait des cas à proximité. Ils avaient donc anticipé. Et ça a permis de monter un groupe de travail en quelques jours avec les bons experts, de pouvoir appuyer les décisions publiques et d'arriver très vite à mettre en place de la vaccination. C'est en moins de deux semaines. C'est très, très rapide. C'est même, je dirais, presque un record.
Des pistes et des espoirs, donc, dans votre voix que l'on entend. Merci beaucoup, Pauline Ezzano. Vous êtes chef du service du département santé animale à l'INRAE. On en profite aussi pour remercier nos confrères d'ici Loire-Océan qui ont permis la réalisation de ce duplex. Tout de suite, le feuilleton. C'est dans les Pyrénées-Orientales que nous passons la semaine avec les descendants de ces républicains espagnols qui ont fui le régime de Franco en 1939 pour se réfugier dans le sud de la France. Plus de 200 000 d'entre eux ont été parqués temporairement dans des camps entourés de barbelés sur les plages d'Argelès, de Saint-Cyprien ou du Barcarès. Aujourd'hui, l'Espagne propose à leurs enfants, à leurs petits-enfants, d'obtenir la nationalité espagnole. Et c'est l'occasion de plonger dans leur histoire. Aujourd'hui, c'est avec Olga Arcos. Elle dirige le mémorial du camp d'Argelès-sur-Mer.
Dès le mois de novembre 38, le gouvernement français, qui s'attend donc à l'arrivée de réfugiés, prend des dispositions, savoir où on va mettre tous ces gens-là. Et Argelès va être choisi. C'est le premier endroit où il y a une plage quand on arrive d'Espagne. Avant Argelès, c'est la côte rocheuse. Ici commence la côte de sable. C'est pratique, facile d'y mettre des milliers, des milliers, des milliers, des milliers et des milliers de personnes, de les enfermer et de les surveiller. Bonjour, je suis Olga Arcos et je travaille au mémorial du camp d'Argelès-sur-Mer. Oui, le centre-ville d'Argelès est toujours assez animé. Les gens s'arrêtent, oui, viennent visiter. Après, c'est vrai qu'on ne voit plus la plage tout à fait de la même façon. Et moi, chaque fois que je vais à la plage, je ne me les enlève pas de l'esprit. Il y a pas tout à fait 60, mais près de 60 campings à Argelès. Et le camping municipal d'Argelès se trouve exactement sur l'emplacement où était le camp. On va se garer.
On entend le bruit des vagues. Il faut imaginer qu'à l'époque, en 1939, ça a été un des hivers les plus froids du siècle, avec des températures négatives.
Là se trouvait le camp. Donc un dénuement extrême, le froid, la faim, la détresse, les maladies. Tout ceci a été passé sous silence pendant très longtemps en France, mais plus encore en Espagne, car n'oublions pas qu'en Espagne, c'est le fascisme qui gagne. En France, il va y avoir la libération. Mussolini dehors, Hitler dehors. Les Espagnols se disaient maintenant Franco. Non. Non. Franco va rester en place pendant près de 40 ans d'une dictature féroce. Cette année, ce sont les 50 ans de la mort du dictateur. Quand on y pense, 50 ans, c'est hier, et ça se passe juste de l'autre côté des Alberts, de ces montagnes qu'on voit ici.
Là, quand je vais sur la plage, je ne vais pas me baigner à la plage d'Argelès.
Vous ne pouvez pas.
Non. Vous allez me faire pleurer. Je m'appelle Leonardo Cedo, j'ai 72 ans, et je vous amène au cimetière des Espagnols. Nous avons des hommages tous les ans. Le 14 décembre, c'est le... Enfin, on a une pensée ce jour-là pour les petits-enfants qui sont morts. Et donc, sur cette stèle, sont inscrits les noms des enfants, où personnellement, j'ai retrouvé moi le nom de mon oncle, Miron Abad Elios, voilà, qui est décédé à l'âge de 3 ans. Mes parents s'étaient intégrés ici. Nous, on n'a pas eu de rejet, on va dire, au niveau du village où on habitait. Mais par contre, je savais que ça avait été des indésirables et que, bon, dans tous les villages, ça ne se passait pas toujours très bien, quoi. La France m'a donné pas mal de choses, puisque bon, j'ai eu la chance de travailler en France, d'avoir une bonne situation, mais je suis quand même d'origine espagnole. J'ai deux filles, celle de Montpellier a déjà son passeport espagnol, et puis la deuxième, elle est en attente, puisque les démarches sont plus longues à Paris, où pratiquement, ça fait 2 ans qu'on a déposé le dossier. Ce qui est important, c'est que je puisse aller là-bas. Mais quand je suis là-bas, je peux être considéré comme eux. Moi, je ne crache pas dans la soupe, comme on dit. Je suis français. Mais j'ai également des racines en Espagne. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Une semaine dans leur vie, feuilleton signé cette semaine, Cécilia Arbona.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50 et c'est donc avec vous chaque mercredi, Eric Fotorino du 1 Hebdo. Et comme les fêtes de Noël approchent, vous vouliez nous parler, Eric, de la famille. Est-ce que c'est un sujet heureux ou est-ce que c'est un sujet douloureux?
Alors, chère Céline, ça dépend, bien ça sûr. Dépend. À chacun sa famille, qu'on ne choisit pas plus que les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, si bien chanté jadis par l'ami Maxime Le Forestier. On se souvient de la formule d'André Gide dans Les nourritures terrestres, famille, je vous hais, où l'écrivain dénonçait le repli sur soi, les bonheurs égoïstes, les foyers clos et les portes refermées de la tribu familiale, vécue comme un étouffoir, sinon comme un enfer. « Famille, je vous aime !» À l'opposé, ce fut en son temps le titre d'une émission de Michel Drucker ou d'un essai de Luc Ferry, où le philosophe et ancien ministre de l'Éducation tenait la famille pour un repère essentiel pour l'équilibre social, car pourvoyeur tout à la fois d'autorité, d'affection et de respect. Comme chaque année à l'approche de Noël, les fêtes dites de famille sont un peu notre Madeleine, s'ouvre la boîte aux souvenirs, les Noëls d'antan auprès des anciens devenus ancêtres, les grands rassemblements familiaux avec ceux venus de loin et qu'on ne voyait qu'une fois l'an, les grandes tablées, les histoires déjà entendues 1000 fois, les visages tout sourire du temps où on rangeait les souvenirs dans des albums.
Bon, vous en parlez avec nostalgie, est-ce que ça veut dire que c'est fini
tout
non, ça
Ah non, pas du tout, pas du tout, mais il y a désormais bien des manières d'être une famille élargie ou recomposée ou peut-être, hélas, décomposée. Des beaux-pères et des belles-mères entrent en scène qui parfois disparaissent à leur tour du paysage et leurs enfants, arrivent des nouveaux compagnons et de nouveaux archétypes, le frère récemment paxé, la tante séparée, l'oncle célibataire, la petite amie étrangère, le dernier né, et jusqu'au nouvel animal de compagnie. Les liens se distendent, les relations parfois se tendent, on ne sait plus toujours de qui on parle quand on dit « les miens ». On pourrait dire que les miens sont celles et ceux qui se retrouvent autour du sapin, mais d'une année sur l'autre, d'une époque de la vie à l'autre, les visages, les envies, les opinions, ce ne sont plus les mêmes, et on se retrouve un peu comme nos sapins, déracinés ou perdus.
Bon, sauf qu'à part partir loin, on ne va pas beaucoup échapper à sa famille. Que faire, Eric, pour qu'on ne s'empaille pas entre le foie gras et la dinde?
Alors, il faut d'abord proposer des légumes pas trop ennuyeux à la
oui,
sœur végétarienne.
C'est vrai.
Bon, plus sérieusement, cette semaine et pour les fêtes, mon équipe du 1, qui est une grande famille facétieuse, a proposé un numéro que nous avons titré avec non moins de facétie « Comment survivre à sa famille ?» Dans ce moment festif, comment neutraliser le tonton réac ou le beau-frère raciste sur les bords et fan de Bardella? L'idée est d'éviter les sujets qui fâchent. J'entends encore ma grand-mère dans mon enfance dire à ma mère avant l'arrivée des invités sur un ton proche du complot. On ne parle pas de politique et pas un mot sur la religion. C'était plus sage vu le nombre de bouffeurs de curés autour de la table de ma mamie bigote. Et très souvent, ce sont les femmes, chère Céline, qui désamorcent les conflits pour qu'on digère bien jusqu'à la bûche. Je laisse donc les mots de la fin à deux femmes, la grande Anna Karénine du non moins grand Tolstoï. Toutes les familles heureuses le sont de la même manière, les familles malheureuses le sont chacune à sa façon. Et l'écrivaine Yann de Bossac, la famille est un ensemble de gens qui se défendent en bloc et s'attaquent en particulier. Alors, bonne fête avec le 1 que je vous offre, chère Céline, mais je suis sûr que vous survivrez avec votre famille.
Mais je l'espère aussi. Merci beaucoup Eric Fotorino, on vous souhaite et à tous les auditeurs de France Inter, plein de bienveillance et de douceur, bien sûr, autour de la bûche. Et de C'est la France, c'est une chanson, c'est un exploit. explorateur que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier, il s'appelle Axel Carion.
Un explorateur à vélo, cycliste de l'extrême depuis bientôt 15 ans. Sa dernière aventure, c'était la Great Divide aux États-Unis, route mythique pour les vététistes, 26 jours pour relier le Canada au Nouveau-Mexique, soit un parcours de 4400 km. Et c'est les Doors qu'Axel Carion a souhaité que l'on écoute, un groupe qui l'accompagne lors de toutes ses expéditions.
Je trouve qu'il y a un mariage parfait avec l'univers du vélo quand on pratique de la longue distance, parce qu'à un moment donné, sur des efforts longs, on rentre dans une certaine forme de méditation. Donc c'est à l'opposé de ce que les gens peuvent imaginer sur le Tour de France où la vitesse est l'expérience. Moi, j'aime rentrer dans un état de transe, j'aime bien ce terme. Et les Doors, quand on les écoute dans ce contexte-là, eh bien, on redécouvre toute la partie instrumentale, notamment, sur chaque morceau.
On peut entrer dans une espèce d'état méditatif tout en pédalant ?
On peut le faire, ça prend du temps. Ça nécessite plusieurs heures généralement. Ça nécessite également de travailler sur son alimentation et sur la difficulté du parcours dans lequel on se trouve. Mais je dirais qu'il y a un contexte particulier où c'est plus facile à reproduire, c'est celui des grandes ascensions, celui des grands cols, celui des longues montagnes, notamment comme la Cordillère des Andes. Moi, je l'ai traversé à plusieurs reprises et il y a des ascensions qui font plus de 40 km. Donc qui me demande parfois plus de 5-6 heures pour arriver au bout de l'ascension et au sommet du col. À ce moment-là, on peut, j'irai, rassembler les ingrédients pour rentrer dans cet état-là.
Et est-ce que vous avez l'impression que ce groupe-là, les Doors, ils vous aident dans ces moments d'ascension ?
Ça fait partie pour moi d'une technique d'ancrage que j'utilise. Il y en a plein d'autres. Mais Jim m'a beaucoup aidé, oui.
Morceau Frédéric a pour titre The Spy, autrement dit l'espion.
Un morceau dans lequel Jim Morrison chante qu'il sait tout de son amoureuse, mais peut-on tout savoir de son amoureux ou de son amoureuse ? Doit-on tout savoir ? Non, on ne doit pas et on ne peut pas de la vie d'Axel Carion.
C'est toute la magie de l'amour, c'est que quelque part c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien, parce qu'il y a une notion presque de volonté mais qui est perdue d'avance. De savoir ce que pense peut-être sa compagne, alors qu'on ne le sait jamais vraiment. Et on espère pouvoir avoir, je dirais, la maîtrise absolue de cela jusqu'à la fin de ses jours. Et on ne le maîtrise jamais vraiment.
Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas de votre épouse ?
Je souhaite même ne pas tout connaître, parce que c'est la magie de l'union. La magie, ce n'est pas de tout connaître de l'autre. C'est au contraire d'accepter, à mon sens, qu'elle est à la fois son jardin secret, ses centres d'intérêt particuliers, comme j'ai les miens, notamment, on parlait de la transe à vélo, je ne l'emmène pas dans cet univers parce qu'elle sait que c'est le mien, et elle le respecte. Et cette acceptation quelque part de l'autre, c'est l'acceptation de sa singularité. Tout connaître, quelque part, c'est essayer de tout maîtriser pour refuser la singularité de l'autre, alors que c'est la surprise. Moi que j'aime, en tout cas, auprès de ma compagne Barbara, qui me surprend chaque jour, parce qu'elle a son univers, j'ai le mien, et maintenant on a le nôtre avec un jeune fils qui a 18 mois, très bientôt, qui s'appelle Jules.
Cette musique-là, est-ce que quand vous l'entendez aujourd'hui, vous avez des souvenirs de vos expéditions ?
Je dirais que c'est plus des ondes, quelque chose qui flotte quelque part dans mon esprit et qui fait que j'associe à la fois un sentiment de bien-être, de plénitude et puis d'élévation aussi de soi, parce que c'est souvent associé à des grandes ascensions. C'est souvent associé à des grands cols. J'ai eu l'occasion de grimper à 5800 mètres d'altitude sur la piste la plus haute du monde en Bolivie, sur les pentes d'un volcan. C'est certain que les Doors m'ont accompagné à ce moment-là. Et si je fais un parallèle avec mon fils qui a un doudou, je pense qu'on le fait en fait de manière naturelle depuis qu'on est tout petit. On a des ancrages dans des objets. Et moi, j'aime assez l'idée de la musique, de la voir comme un ancrage spirituel. Parce que si on perd l'objet en question, quand c'est un objet physique, c'est un sentiment que j'ai déjà vécu en expédition où vous perdez une paire de lunettes et vous n'avez aucune possibilité de la retrouver dans le contexte dans lequel vous êtes. Une musique, ça se perd jamais. Elle vous reviendra toujours. C'est impossible à perdre.
Donc il y a vraiment un côté doudou avec les Doors ?
Je pense.
The Spy, The Door, c'était donc Frédéric, le choix d'Axel Carion.
Axel Carion, dont vous pouvez retrouver les aventures dans un livre, Le Monde à vélo, publié l'an dernier chez Casa Édition.
Merci Frédéric Pommier. Dans quelques minutes, comment est venu le temps des cathédrales ? Question dans le fil de l'histoire, avec Stéphanie Duncan et son invité.